dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
L'Afrique face à la vaccination contre le coronavirus, c'est ce dont nous allons parler ce soir dans votre émission avec nos invités. Mais avant de les rejoindre, retrouvons notre invité décryptage sur le Mali.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Yaya Sangaré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien ministre porte-parole du gouvernement malien et secrétaire à la communication de l'ADEMA, l'Alliance pour la démocratie au Mali, membre de la majorité présidentielle sous Ibrahim Boubacar Keïta. Une mission de la CEDEAO conduite par Goodluck Jonathan séjourne au Mali depuis quelques jours pour s'assurer de la bonne marche et de la transition. L'ex-président nigérian insisterait notamment sur l'inclusivité du processus et le niveau de concertation avec tous les acteurs de la société malienne. Y aurait-il, d'après vous, d'autres points sur lesquels l'émissaire ouest-africain devrait s'intéresser?
Oui, en plus, d'abord, nous saluons d'abord l'arrivée de cette délégation. La délégation est dans nos murs, effectivement, pour l'inclusivité de la transition. Mais en plus de cela, nous aurons souhaité quand même que cette mission travaille davantage sur les différents problèmes qui sont en train d'émailler la conduite de cette transition, notamment les arrestations qui sont
les arrestations
cours,
de personnalités, dont l'ancien premier ministre, le dernier premier ministre du président Ibrahim Boubacar Keïta, Boubou Cissé, qui est en fuite.
Tout à fait. Et ensuite, nous voulons également qu'ils travaillent sur l'ébullition sociale qui est en cours, comment gérer cette ébullition sociale. Mais c'est des éléments qui peuvent un peu perturber la transition, alors que le souci de tous les Maliens, c'est de faire en sorte que cette transition se passe dans les meilleures conditions afin que nous puissions aller à des élections transparentes, crédibles et acceptées par tous.
Qu'est-ce que vous attendez de l'organisation sous-régionale ouest-africaine?
Ce que nous attendons, c'est d'abord de dire aujourd'hui à cette junte qui est en train de gérer la transition, d'avoir une oreille attentive à tout ce qui se fait sur le front social, parce que c'est le front social qui pourrait nous amener dans d'autres difficultés. Et faire en sorte également qu'il y ait beaucoup plus d'apaisement, parce que les arrestations peuvent entraîner également des comportements qui peuvent également affecter la bonne marche de la transition.
Que peut concrètement faire la CEDEAO face aux grèves qui se multiplient dans divers secteurs d'activité au Mali?
C'est encourager le dialogue, parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème de confiance entre les différents acteurs. Ceux qui ont, les militaires qui ont été, qui ont fait le coup d'État et les acteurs politiques. Et même entre les acteurs politiques, je pense qu'il y a un problème de confiance, un problème de dialogue. Donc la CEDEAO pourrait être un facteur de faire en sorte que tous les acteurs puissent se parler et qu'ils s'attendent sur l'essentiel, sur les priorités de la transition et que ceux qui ont en charge de diriger la transition comprennent que la transition est une période d'exception et que la transition n'est pas tout gérée. Mais la transition doit faire en sorte qu'il y ait l'inclusivité la plus large possible afin que les gens s'accordent sur l'essentiel et aller à des élections.
Justement,
afin que nous puissions aboutir au retour à notre condition normale.
Justement, quel est votre avis, quelle est votre appréciation du niveau d'inclusivité des acteurs de la société malienne par le gouvernement de transition?
Vraiment, c'est là où le bas blesse, parce qu'on n'a pas l'impression que tout le monde est inclus dans la transition. On a l'impression qu'il y a des gens qui sont exclus, qui sont mis au bord de la route. Il y a une méfiance, ceux qui ont fait le coup d'État, et le M5 qui était à la base également de tous les événements que nous avons connus avant la chute du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, et les hommes politiques. Alors que nous sommes dit, tous les Maliens doivent participer. Il y a eu des erreurs de part et d'autre, mais aujourd'hui nous devons nous dire où se trouvent les problèmes, quels diagnostics il faut poser, et qui doit apporter quoi pour que nous sortions de ça? Parce que nous nous trouvons dans une situation aujourd'hui que personne n'a voulu, parce que le Mali était sous la rampe, la démocratie. Un coup d'État n'est pas géré les problèmes politiques.
Le gouvernement de transition exclut l'ADEMA, membre de la majorité présidentielle, et tous ceux qui ont travaillé avec le président déchu, Boubacar Keïta?
C'est l'impression qui se dégage. Parce que chacun dit, nous voulons aider la transition. Mais on a l'impression que les gens ne sont pas sollicités.
Parlant des personnes arrêtées, le Premier ministre Mokhtar Ouane rassure et en déclarant que son gouvernement veillera au respect des droits de ces personnes. Vous n'avez pas confiance?
Non, moi je me dis, entre la déclaration et l'acte posé, moi je juge les gens sur les actes posés. Moi je voudrais qu'il y ait beaucoup plus d'actes concrets. Et l'acte concret, c'est que les gens, tous les Maliens doivent se sentir en sécurité.
Et ce n'est pas le cas d'après vous?
Bon, c'est que nous voyons aujourd'hui, les gens comment se trouvent dans une sorte de peur à tous les niveaux. Moi, je pense qu'il faut rassurer les gens, mettre les gens en confiance et se dire que tous les Maliens ont la liberté d'expression, d'agir, mais conformément au texte et aux lois de la République. Et personne ne doit être au-dessus de cela.
Quelle lecture fait votre parti, l'ADEMA, de l'action du gouvernement actuel de Mokhtar Ouane?
Bon, nous disons que beaucoup d'espoirs ont été placés dans ce gouvernement. Et le gouvernement est en train, pour nous, d'avancer à pas de tortue. C'est vrai que ce n'est pas facile, une transition, mais moi je pense que ce gouvernement doit s'attaquer beaucoup plus à certaines priorités, dont la sécurité des populations, l'organisation des élections législatives et présidentielles, et faire en sorte également que le fonds social soit apaisé.
Yaya Sangaré, merci beaucoup.
C'est à moi de vous remercier.
Ancien porte-parole du gouvernement malien et secrétaire à la communication de l'ADEMA, membre de la majorité présidentielle, Ibrahim Boubacar Keïta, au Mali.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Et nous parlons ce soir de l'Afrique qui se prépare à la campagne de vaccination contre le coronavirus avec nos invités. Docteur Marda Robalo, haute commissaire de lutte contre le Covid-19 en Guinée-Bissau. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue et bonsoir au professeur Boniface Kofi, président de l'Ordre des médecins de Centrafrique en ligne de Bangui. Bonsoir professeur Kofi.
Bonsoir madame.
Bonsoir Mamadi Traoré, référent vaccination et réponse aux épidémies chez MSF, Médecins sans frontières.
Bonsoir madame.
Merci à vous d'être là. Je vais commencer par vous madame Robalo. Comment se prépare votre pays, comment votre pays se prépare-t-il face à la campagne de vaccination qui a commencé, je le disais, en début d'émission dans plusieurs pays européens?
Merci beaucoup pour cette question. La Guinée-Bissau fait partie du mécanisme COVAX qui a pour objectif de travailler à la mise à disposition de au moins 20% des besoins à un vaccin COVID-19 pour les économies les moins nantis du monde. Donc, nous sommes en train de travailler avec l'OMS, la Banque mondiale et Gavi pour préparer notre soumission. Nous avons déjà soumis à COVAX une partie des documents. Et là, on est en pleine préparation du plan de vaccination. Pour donc l'introduction du vaccin COVID-19 en Guinée-Bissau.
Vous êtes en pleine préparation. Voilà. Est-ce qu'on a une date à laquelle cette opération devrait commencer?
Pas avant le deuxième trimestre. Nous n'avons pas de date qui soit adoptée pour le moment. Nous attendons de finaliser notre plan de vaccination avant de pouvoir avoir une idée claire sur quand est-ce qu'on va vacciner nos populations. Ceci est aussi dû au fait que des vaccins qui seraient les mieux adaptés à notre contexte, notamment pour la chaîne de froid, nous ne savons pas encore quand est-ce que des doses seront disponibles pour notre pays. Mais nous estimons qu'un début de deuxième trimestre 2021, cette année, oui, la Guinée-Bissau sera en mesure de commencer la vaccination.
Et quelle est la quantité de vaccins commandés pour l'instant, madame? Parce qu'il y a plusieurs pays qui ont déjà commandé 2 millions de doses, le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Égypte et bien d'autres. La Guinée-Bissau en est à combien aujourd'hui de doses de vaccins commandés et quels vaccins?
Justement, voilà les deux questions pour lesquelles on n'a pas encore de réponse. Nous irons travailler sur les quantités pendant ce processus de planification. Espérons que d'ici la semaine prochaine, les experts auront finalisé le nombre approximé à peu près de personnes à vacciner, les groupes à risque, et nous aurons une idée claire, beaucoup plus claire, sur le nombre de doses dont on aura besoin.
Merci.
Quel vaccin ce n'est pas Pfizer, ce n'est pas Moderna. En tout cas, tant que les conditions de COVAX n'auront pas changé, il est possible que avec l'offre de certains pays, de certains excédents de leurs doses de vaccins, il est possible que la Guinée-Bissau puisse accéder à un de ces vaccins. Sinon, on partira pour des vaccins qui pourront être stockés et distribués dans des conditions de température qui sont compatibles. Merci. Avec notre chaîne de froid.
Merci, Madame Docteur Robalo. Quelle est l'expérience de la République centrafricaine, Professeur Kofi?
Bien, bonjour Madame et mes meilleurs vœux pour le nouvel an.
Merci à vous.
En République centrafricaine, il faut dire que vraiment nous sommes dans une phase de discussion, parce que nous n'avons rien encore été décidé en ce moment. Il y a eu des premières réunions pour discuter des propositions, des propositions. Donc, il y a une équipe qui a été mise en place au niveau du ministère de la Santé et qui est en train actuellement de travailler sur les propositions qui sont faites. Je me suis rapproché de l'équipe qui travaille là-dessus et donc pour le moment, il n'y a pas un choix en tant que tel. Pour le moment, on n'a pas une date précise non plus. Et comme vous le savez, nous sommes dans une phase un peu délicate. Nous sommes en pleine phase électorale.
Crise politique.
Et
sécuritaire.
Donc, nous fonctionnons vraiment au ralenti. Voilà pourquoi les choses sont, je peux dire, même en stand-by en ce moment.
Et justement, c'est très intéressant d'entendre des voix autorisées comme les vôtres, celles des pays les moins nantis. On vient d'entendre la Guinée-Bissau. Votre expérience aussi intéressante, en ce sens que il y a aussi cette crise sécuritaire dont vous venez de parler, la crise politique et la crise sécuritaire. Donc, même s'il y avait le vaccin aujourd'hui, l'atteinte des personnes à vacciner serait un gros défi, ce serait un gros problème en Centrafrique.
Ouais. Absolument, ce serait un gros problème. Là, je vous parle, il y a un couvre-feu qui a été instauré à cause des problèmes sécuritaires. Et là aussi, il y a pour le moment, le contact aussi avec l'intérieur du pays constitue encore un problème. Et donc, vous comprenez que parler de vaccination dans une phase où nous attendons même la dernière décision de la Cour constitutionnelle par rapport aux élections,
Décision attendue.
Parmi les priorités pour le moment. Voilà,
décision attendue d'ici le 18 ou 19 janvier.
Le 19 janvier.
Voilà. Oui. Monsieur Mamadi Traoré, quand vous écoutez ces expériences, on le disait, de pays à faible revenu, en Centrafrique, c'est encore la phase de discussion. En Guinée-Bissau, c'est la phase de préparation. On va commander les vaccins anti-Covid, mais on ne sait pas combien, on ne sait pas quand cela va commencer, l'opération va commencer. Comment appréciez-vous cette préparation à plusieurs vitesses de cette campagne de vaccination?
Oui, c'est une bonne question. Et comme vous le savez, aujourd'hui, il y a 190 pays qui participent à COVAX Facility, dont 92 des pays à ressources faibles et moyennes, dont presque la quasi-totalité des pays africains qui sont à différents niveaux de préparation. Certains ont déjà fait la soumission et ils attendent les doses et d'autres sont en cours d'élaboration.
L'Égypte a reçu une partie de sa commande?
Aujourd'hui, tout ce qui concerne COVAX, parce que dans COVAX, il y a COVAX AMC qui soutient l'allocation des pays en ressources limitées, les 92 pays. En plus de COVAX facilité, aujourd'hui, il n'y a aucun vaccin de COVAX n'est encore disponible sur les pays. Mm-hmm. Parce que COVAX prévoit livrer ses premières doses au courant premier trimestre de cette année, mais pour l'instant, il n'y a aucune information là-dessus sur la date précise quand ils livreront les premières doses, mm-hmm. que ce soit pour les pays en développement ou les pays...
Mais on indiquait que l'Égypte a reçu ses premières 50 000 doses de vaccins chinois, Sinopharm.
Attendez, ça, c'est pas COVAX facilité.
Absolument, c'est en dehors de...
Il y a plusieurs mécanismes d'allocation des vaccins, pour COVAX, pas encore. Et en plus de COVAX, l'allocation de COVAX, il y a des mécanismes parallèles.
Bilatéraux peut-être.
Des accords bilatéraux entre les pays, chaque pays avec les fabricants, les firmes pharmaceutiques pour l'acquisition des vaccins.
Mais vous qui couvrez à peu près tous les pays, comment appréciez-vous cette situation? On ne sait pas, finalement, dans plusieurs pays africains, sinon la quasi-totalité, quand cette opération de vaccination contre le Covid-19 va commencer. Est-ce que cela vous inquiète-t-il?
Pour l'instant, comme vous le savez, c'est la course au vaccin. Chaque pays essaie d'avoir le maximum de doses de vaccins pour sa population. Mais il faut le dire, comme vous le savez, le continent africain est le continent le moins touché par cette pandémie. Et aujourd'hui, la plupart des pays africains ne comptent que sur COVAX Facility. Et la bonne nouvelle, c'est que le défi de financement... L'argent qui devrait être mobilisé pour 2020 a été mobilisé au courant des deux dernières semaines de 2020. Les 2 milliards de dollars, ça c'est une bonne chose. En plus de cela, il y a un défi budgétaire également parce qu'il est question de mobiliser 4,6 milliards de dollars afin que COVAX puisse fournir environ 2 milliards de doses de vaccins à tous les pays adhérents pour pouvoir couvrir 20% de leur population.
Mais donc, même si l'Afrique le voulait, je veux dire, souhaitait vacciner toute sa population, elle n'en a pas les moyens.
Absolument, l'Afrique n'a pas les moyens. Et la question qu'il faut se poser, est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique doit aller dans ce sens?
Absolument.
Parce que il faut noter que la COVID-19, ce n'est pas la seule priorité sanitaire en Afrique.
Ce n'est pas une urgence, la campagne de vaccination contre le COVID.
Ce n'est pas une urgence, mais il y a bien d'autres priorités. Ils peuvent... avoir des vaccins, élaborer une stratégie bien ciblée parce qu'aujourd'hui, l'Afrique n'aura pas une quantité suffisante de vaccins d'un seul coup, comme les autres pays. Les vaccins seront alloués de façon progressive.
Merci beaucoup.
Et voilà, et la quantité reçue, il faudrait que cette quantité soit donnée aux personnes qui en ont besoin.
Merci beaucoup, Monsieur Traoré. On va marquer une pause, Madame et Messieurs, et je vous retrouve dans un instant pour la suite de notre débat consacré à la préparation de l'Afrique à la vaccination contre le Covid-19.
Africa, le grand rendez-vous. Avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
L'Afrique face à la vaccination contre le coronavirus, nous en parlons ce soir avec professeur Boniface Kofi, président de l'Ordre des médecins en Centrafrique. Il est en ligne de la capitale Bangui. Docteur Magda Robalo, haute-commissaire de lutte contre le Covid-19 en Guinée-Bissau. Elle est en ligne de Bissau, la capitale, et ici à Paris. Avec nous, Mamadi Traoré, référent vaccination et réponse aux épidémies chez MSF, Médecins sans frontières. Madame Robalo, On a entendu avant la pause, M. Traoré, se poser la question, est-ce que la vaccination contre le Covid-19 est-elle vraiment la priorité en Afrique, surtout étant donné, disait-il, que COVAX n'assurerait que 20% des doses, qu'il y a d'autres priorités. Est-ce que vous partagez cette observation?
Je partage la notion. Comme il y a d'autres priorités dans nos pays, mais il est tout aussi vrai que compte tenu des interruptions dans le système de santé qui sont causées par la COVID-19, devient prioritaire que nous puissions mettre à la disposition de nos populations des moyens de prévention, dont des vaccins. Il est vrai que avec le mécanisme COVAX, il n'y a que 20% des besoins de la population qui seront couverts, mais il nous revient à nos gouvernements chercher d'autres mécanismes de financement pour que ne serait-ce que les groupes prioritaires puissent être protégés. Je pense que la faiblesse de nos systèmes de santé, les difficultés que Covid a créé avec nos économies déjà faibles, nos systèmes sociaux et le système éducatif qui a dû fermer pendant des mois. Ce sont là des problèmes que nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir encore une fois.
Donc, à quoi ça servirait d'avoir les vaccins pour 20% de la population alors que les 80 autres pourcents, peut-être qui en ont besoin, ne peuvent pas en recevoir, surtout qu'il faudrait deux doses à chaque fois pour garantir l'immunité?
C'est pourquoi je dis qu'il faut cibler les groupes prioritaires. Et il faut chercher des financements additionnels pour qu'on puisse couvrir au moins les groupes prioritaires, la totalité des groupes à risque ou alors toute la population. Je pense que si on ne peut pas protéger l'ensemble de la population, on connaît des groupes qui font des cas graves et qui risquent de mourir. Cela mérite d'être protégé. Donc, si avec les 20% qu'on reçoit de COVAX ne suffit pas, c'est au gouvernement de chercher les doses additionnelles qui nous permettraient, ne serait-ce que la protection des groupes à risque qui risquent de faire des cadavres et qui risquent de mourir dans nos hôpitaux. Je pense que c'est là un devoir de tout gouvernement.
Professeur Kofi, la riposte a été au début de la pandémie en Afrique calquée un peu sous le modèle européen avant de montrer ses limites, notamment en ce qui concerne la mesure de confinement. Est-ce qu'on ne s'achemine pas aujourd'hui vers les mêmes erreurs pour ce qui est de la vaccination? C'est-à-dire que les acteurs africains de la santé parlent de vaccination, peut-être juste parce qu'on a vu qu'en Europe et en Occident, l'opération a commencé, on se dit « Ah oui, tiens, il faut aussi que nous, en Afrique, on aille vers la vaccination. » Le responsable de MSF vient de se demander « Est-ce que c'est vraiment la priorité ?»
Eh bien, je partage l'avis du responsable de MSF. Hein. En fait, on est du même avis. Ce n'est pas une priorité pour le moment. Et pour la première raison que j'ai évoquée tout à l'heure, parce que nous sommes en période électorale. Bon, il faut dire que la fréquence, une des raisons, c'est que la fréquence de la maladie n'a pas augmenté. Pour le moment, nous n'avons pratiquement pas de malades hospitalisés pour Covid-19. Ensuite, lorsqu'on écoute un peu ce qui se passe déjà dans les pays qui ont un taux élevé de contamination, vous voyez, il y a une certaine méfiance quand même au sein de la population, puisque certains refusent le vaccin. Et maintenant, parmi les propositions qui ont été faites, les propositions de vaccins, je crois que beaucoup de pays ont eu à affronter cela, il est dit clairement que si jamais il y a des effets secondaires ou des effets pervers, ce serait les laboratoires se désengagent. Au cas où il y aurait des effets secondaires, ils ne seront pas pris à dédommager. Et donc, vous voyez, quand c'est comme ça, les gouvernements eux-mêmes, en l'occurrence le gouvernement centrafricain qui déjà traverse une période difficile, je ne vois pas comment le gouvernement va dire « Bon, mais je vais prendre en charge les effets pervers d'un vaccin contre une maladie qui pratiquement n'est pas aussi présente que ça, du moins pour le moment. » Vous voyez, et donc ça fait que je réponds oui à votre question. Vraiment, ce n'est pas une priorité en ce moment. C'est du moins, c'est un peu l'avis de beaucoup de confrères dans le pays.
Merci. Vous avez dit peut-être tout à l'heure, qu'est-ce qui explique l'extrême prudence de certains chez vous? Monsieur Traoré, l'Europe fait en ce moment une course contre la montre, notamment parce que l'ampleur de l'épidémie n'est pas comparable, hein, à l'Afrique. C'est vraiment le rythme du sprint. Est-ce que en Afrique, on ne risque pas, à force peut-être, de se précipiter, comme on voit ailleurs en Europe, vers le vaccin et finalement arriver à une vaccination moins bien préparée?
Écoutez, je reviens sur ce que j'avais dit. Je ne dis pas du tout que la vaccination en Afrique, ce n'est pas une priorité, mais plutôt de moyens que ce n'est pas la COVID-19, n'est pas la seule priorité pour les pays africains.
En somme, il y a d'autres urgences
la COVID. Il faut faire, voilà, plus la COVID. Du coup, les doses de vaccins, comme je le disais, qui seront allouées aux pays africains, il faudrait qu'ils en fassent une bonne usage en ciblant les populations bien à risque, que cette stratégie vaccinale soit bien ciblée. Et de l'autre côté, comme vous me demandez par rapport, oui, si on regarde la courbe épidémiologique, ce n'est pas la même ampleur que les pays européens aujourd'hui. Et l'Afrique, si dès qu'ils auront les vaccins, oui, c'est un problème de santé publique prioritaire. Ils peuvent vacciner les populations à risque qui risquent d'en mourir, les personnes âgées avec des comorbidités, et également protéger les personnels qui sont en première ligne, afin que pour ne pas que le système de santé déjà fragile collapse.
Plus s'effondrer davantage,
plus
collapse.
S'effondrer davantage, voilà.
Le mot anglais.
Coup,
alors,
voilà,
oui, mais je demandais par rapport à cette, je ne veux pas dire frénésie, mais cette question de vaccination dont on parle de plus en plus en Afrique, est-ce que le fait que ça a commencé en Europe et à une vitesse maximale n'a pas mis un peu de pression sur les gouvernements africains? Parce que tout le monde en parle aujourd'hui. Est-ce qu'on ne risque pas, à force de vouloir suivre l'Europe, même si on n'en a pas les moyens, se retrouver dans une situation de mauvaise préparation? Madame parlait tout à l'heure, Madame Robalo parlait tout à l'heure de problèmes logistiques qui est réel.
Il y a, comme je le disais tantôt, si on regarde l'Afrique en général, il y a certains pays qui sont en avance par rapport à d'autres en termes de préparation. Ils ne vont pas forcément être au même niveau. Mais il y a de cela quelques mois que certains pays ont pris le devant. Si je regarde, je ne pourrais pas dire exactement la proportion des pays africains qui sont aujourd'hui prêts à recevoir les vaccins et vaccinés.
On parle du Maroc, de l'Afrique du Sud, l'Égypte et dans une certaine mesure l'Algérie, qui sont aussi des pays beaucoup plus touchés que la plupart des pays subsahariens.
Les pays subsahariens, certains sont aujourd'hui préparés à recevoir les vaccins. Parce qu'il faut faire attention, il y a les vaccins ARN qui demandent une chambre de froid plus spécifique, dont la conservation est beaucoup plus compliquée. Là, c'est un problème de logistique, un vrai problème de logistique pour les pays africains. Mais si les vaccins futurs qui, dans quelques mois ou semaines, si certains seront homologués, qui peuvent être conservés à des températures entre 2 et 8 degrés, c'est ce type de vaccin que l'Afrique en a besoin aujourd'hui, parce qu'ils en ont la capacité de les stocker. C'est comme ils le font au niveau de leur programme de vaccination de routine. Là, ça ne créera pas beaucoup plus de problèmes logistiques.
Comme le vaccin Pfizer, dont les conditions de conservation seraient plus compliquées.
Ça sera compliqué pour les voilà.
D'accord.
Moderna et Pfizer seront compliqués pour les pays africains. Mais les autres qui pourront être stockés à température entre 2 et 8 degrés seront plus faciles pour le continent africain.
Docteur Robalo, vous parliez tout à l'heure de la nécessité pour le gouvernement bissau-guinéen de chercher d'autres mécanismes de financement au-delà de l'initiative COVAX. Quelles pourraient être ces sources alternatives de financement? Vous y avez pensé, je suppose?
Oui, bien sûr. Je pense que si jamais les 20% de la quantité mise à disposition par COVAX ne permettrait pas de couvrir tous les groupes à risque, qui sont notamment le personnel de santé et les personnes avec des comorbidités, je pense que le pays pourrait penser à des prêts, à des taux d'intérêt intéressants pour couvrir la partie qui reste du vaccin dont on aurait besoin. Je dois dire que si aujourd'hui on insiste sur le contrôle de la pandémie de COVID-19, c'est parce que en fait nous avons eu un impact négatif sur tous les autres programmes de santé, notamment des programmes de santé qui sont prioritaires, la santé maternelle et infantile, le paludisme, le VIH-SIDA, la tuberculose. Il faut donc qu'on puisse s'occuper de ces priorités-là. Et tant que la pandémie de COVID-19 continuera à être une perturbation dans le mécanisme mondial, régional et national de développement, nous n'aurons pas la paix, si je peux utiliser ce mot, pour travailler sur les choses qui importent vraiment. Si les voyages internationaux continueront d'être conditionnés par notre statut positif ou négatif par rapport au virus SARS-CoV-2, si nous risquons de continuer d'avoir nos frontières être traversées, nos frontières poreuses en Afrique, par des personnes infectées, si nous risquons de continuer d'avoir des flambées épidémiques, on a intérêt à régler ce problème avec les moyens disponibles. Donc je ne pense pas que ce soit un copier-coller de ce que font les pays occidentaux. Européens, je pense que occidentaux, je pense que c'est tout à fait légitime qu'on veuille protéger nos populations du fait qu'il y a un vaccin qui est disponible.
Je vais te poser la question parce que certains estiment que finalement, à force de voir le vaccin comme la solution universelle, alors même que l'OMS a indiqué que même avec cette campagne de vaccination, il est impossible d'assurer l'immunité collective cette année. Donc certains experts pensent qu'il faut peut-être envisager des pistes endogènes, des solutions endogènes, comme des traitements proposés par des médecins traditionnels africains. Je ne sais pas si on parlerait de médecins traditionnels, mais en tout cas, des pistes locales.
Je suis parfaitement d'accord. Le vaccin n'est pas la solution miracle. C'est pas ça qui va régler tous les problèmes. Nous devons continuer de nous laver les mains, de porter des masques et de trouver des solutions, trouver un médicament pour traiter la COVID-19. Tant qu'on n'aura pas ce médicament-là, il faut qu'on puisse mettre de notre côté tous les moyens de prévention qui seraient disponibles. Et c'est là où le vaccin rentre dans ce cadre d'un arsenal thérapeutique qui nous permet, en même temps que les mesures barrières, de réduire l'impact négatif de la pandémie. Pour moi, il s'agit, en tant que quelqu'un qui œuvre dans la santé publique, de minimiser les dégâts causés par la pandémie de COVID-19 pour qu'on puisse reprendre la vie, qu'on puisse ouvrir nos économies, qu'on puisse s'occuper des femmes enceintes, qu'on puisse vacciner nos enfants qui meurent d'autres maladies et qu'on puisse donner à nos systèmes de santé les moyens de s'occuper des questions prioritaires.
Merci, Dr. Magda Robalo. On se retrouve dans un instant.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
18h47 à Bangui et à Paris, 17h47 à Bissau. Merci d'être avec nous pour ce grand rendez-vous. Et nous parlons ce soir du niveau de préparation de l'Afrique à la vaccination contre le Covid-19 avec nos trois invités, Dr Marda Robalo, haute commissaire de lutte contre le Covid-19 à Bissau, en Guinée-Bissau, Mamadi Traoré, référent vaccination et réponse aux épidémies chez Médecins sans frontières, MSF, ici à Paris, et professeur Boniface Kofi, président de l'Ordre des médecins de Centrafrique, il est à Bangui. Et je m'adresse à vous à présent, professeur Kofi. Est-ce qu'on n'a pas aussi le sentiment qu'on mette un peu la charrue avant les bœufs? Vous parliez tout à l'heure de la grande méfiance de vos compatriotes centrafricains quant au vaccin. Est-ce qu'il ne faut peut-être pas d'abord régler ce problème de méfiance, de déficit de communication avant d'aller vers cette campagne de vaccination au risque de ne pas avoir peut-être les candidats au vaccin lorsqu'ils seront prêts?
Oui, bien sûr, ce sera un préalable si jamais le pays opte pour le vaccin en termes de moyens de lutte. Mais bon, ce à quoi je fais allusion, en fait, c'est par rapport au milieu médical. En fait, nous avons des confrères donc, qui ont participé aux premières rencontres par rapport à ces vaccins et aux différentes possibilités de choix qui se sont posées. Et il faut dire aussi, bon, tout le monde est branché un peu sur les ondes, hein, faisant partie du village planétaire. Donc, on suit un peu ce qui se passe ailleurs.
Donc, vous voulez dire que même au niveau de vos collègues médecins et infirmiers, le personnel médical n'est pas vraiment prêt à se faire vacciner?
Bon, vous savez, vous avez la prévalence, la maladie, elle n'est pas très présente pour le moment. Là. C'est vraiment le taux de contamination est très faible pour le moment. Deuxièmement, bon... les quelques cas que nous avons enregistrés dans le pays sont pour la plupart des cas asymptomatiques. Et troisièmement, maintenant, nous écoutons un peu hein, les méfiances un peu dans d'autres pays qui sont beaucoup plus contaminés. Et du coup, bon, vous comprenez que les gens sont d'emblée méfiants et se disent, bon, on n'en a pas beaucoup, pourquoi en parler maintenant alors qu'on a peut-être d'autres priorités, comme l'a soulevé tout à l'heure un de mes prédécesseurs. Nous avons d'autres priorités telles que le paludisme, le sida et autres, et voilà, c'est ça.
Et qui font de plus
donc,
de victimes.
Coup, ça ne constitue... Voilà, du coup, ce n'est pas vraiment une priorité pour le moment. C'est un peu ça, quoi, la vie du corps médical.
Comment cela va se passer si le corps médical lui-même n'est pas enclin à se faire vacciner? Comment procéder à la vaccination et comment convaincre les autres de se faire vacciner?
Eh bien, de toute façon, la pression de la maladie elle-même va pousser les gens, bien sûr, à l'accepter. Or, pour le moment, il n'y a pas cette pression au plan local. C'est ça qui fait que ça soulève ce problème. Et deuxièmement, vous savez, en plus de tout ce que j'ai dit, nous avons Ebola. Ebola qui est juste à notre porte, hein, de l'autre côté de
avec la RDC.
Voilà. Et donc, nous savons le dégât causé par Ebola dans le monde, du personnel médical.
Merci.
Et donc, du coup, les confrères se disent, pourquoi ne pas déjà se
chercher un vaccin contre Ebola plutôt voilà. que Ebola n'est pas, n'est pas une pandémie voilà, hein, ça, mondiale, à l'instar du Covid-19. Peut-être voilà. Rapidement, professeur Kofi, quels sont les derniers chiffres de Covid-19 dans votre pays?
Ça n'a pas beaucoup évolué. Je n'ai pas le chiffre exact, mais nous sommes toujours autour de 600.
600 cas. Pour combien de décès?
Autour de la soixantaine. Hein.
60 décès.
Une soixantaine de décès.
D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous, professeur Kofi. Monsieur Traoré, vous êtes là? Allô?
Allô?
Oui, comment vaincre cette méfiance quasi générale contre le vaccin de Covid-19? En France, ici, beaucoup sont méfiants. On vient de l'entendre aussi en Centrafrique. C'est une situation qui risque de compliquer l'opération de vaccination, en Afrique notamment.
Tout à fait. Vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a pas mal de désinformations qui font qu'il y a beaucoup de méfiance par rapport au vaccin Covid. Même bien avant l'arrivée du vaccin Covid dans le contexte africain, Il y avait pas mal de désinformations par rapport à certains vaccins. Tout nouveau vaccin fait face à une série de désinformations.
Comment justement faire face à cette désinformation pour que les populations, lorsque le vaccin sera disponible, effectivement, puissent se faire vacciner?
C'est aux différents gouvernements de travailler sur leur politique de sensibilisation, d'information, utiliser tous les canaux d'information possibles pour sensibiliser et donner plus d'informations sur les vaccins, les bénéfices du vaccin. Ainsi, la population pourra comprendre, pourra voir l'intérêt du vaccin, pourquoi se faire vacciner.
Merci.
Mais si cette campagne de sensibilisation n'est pas faite et que la désinformation continue sur les réseaux sociaux, il y aura toujours beaucoup d'anti-vaccins.
Cette méfiance et ces soupçons. Madame Robalo, Monsieur Kofi, le professeur Kofi le disait tantôt, Monsieur Mamadi aussi, que la vaccination massive n'est pas la solution pour l'Afrique, en tout cas n'est pas nécessaire au regard de la faible ampleur de l'épidémie par rapport de la pandémie par rapport au reste du monde. Néanmoins, il faut vacciner les populations à risque, disiez-vous. Est-ce que ces populations à risque aujourd'hui sont véritablement sensibilisées sur le vaccin et sont-elles disponibles et prêtes à se faire vacciner?
Nous avons à l'intérieur du plan de vaccination une composante information, éducation et communication. Nous sommes parfaitement conscients de la désinformation au sujet du vaccin COVID-19. Ce sont des problématiques récurrentes depuis la polio, donc même avec le vaccin Ebola. Nous sommes conscients qu'il y aura toujours des poches de réjection et nous allons travailler sur cette question pour mobiliser le maximum de personnes à risque possible en leur démontrant l'intérêt pour leur santé. Il est vrai que du fait de la faible prévalence de la maladie dans nos pays, les populations sont moins convaincues et on voit ça même avec l'utilisation des masques, des gestes barrières. Il y a une sorte de
Suspicion.
Je dirais plutôt relâchement parce que les gens, la perception du risque n'est pas assez élevée, notamment lorsque les gens comparent avec ce qui se passe ailleurs dans le monde.
Ça ne
joue pas à notre faveur.
Voilà, donc chercher l'adhésion des populations. Et en deux mots, madame, au niveau de la logistique, est-ce qu'elle est prête pour acheminer ces vaccins et les administrer?
Vous savez, nous avons un programme de vaccination qui existe depuis des années avec toutes ses faiblesses et toutes ses difficultés. Comme je disais, la seule difficulté aurait été la chaîne de froid au cas où il n'y aurait que des vaccins à des conditions de magasinage ultra avec ce qu'on appelle ultra cold chain. Donc, si on devait avoir des vaccins de moins 20, moins 80. Comme il y a heureusement d'autres vaccins qui peuvent être conditionnés dans des conditions
acceptables, vous les commanderez.
Acceptables, donc je pense
Merci.
Voilà.
Merci beaucoup, madame, pour ces propos.